face à l'effondrement du champ, la stratégie comme manière de vivre. J'aurais pu donner un autre titre, c'est la recherche en stratégie a-t-elle un avenir ? Voilà, et à quelles conditions ? Bonjour Philippe Silverzahn.
Bonjour.
Philippe Silverzahn, professeur à EM Lyon Business School, et donc texte coécrit avec Philippe Rio, également EM Lyon Business School, dans le numéro spécial coordonné par Alain-Charles Martinet et Pierre-Michel Menguer de la Revue Française de Gestion, la recherche en stratégie et management, Exit, Voice or Loyalty. On ne va pas rentrer dans Loyalty, etc. Même si vous les prenez dans votre titre, je fais simple, vous nous dites, premier temps, attention là, on est sur une pente suicidaire pour la recherche.
Alors voilà, recherche en management en général, mais surtout en stratégie, ça fait longtemps que le débat est ouvert, hein, mais là, de plein d'endroits différents, il y a des chercheurs, évidemment aussi des praticiens, qui disent le champ de la stratégie en tant qu'objet de recherche, et donc d'enseignement, et donc de pratique, aujourd'hui est confronté à des défis qui, s'ils ne sont pas résolus, posent la question même de l'existence de ce champ, non pas en tant que pratique, les entreprises font toujours de la stratégie, mais en tant que recherche et en tant qu'institution.
Alors plusieurs points hein, d'ailleurs qui est dans votre diagnostic sur le divorce avec la pédagogie, en gros, on va à la facilité. C'est-à-dire que c'est toujours pratique d'avoir des matrices, des machins.
Voilà, on utilise beaucoup les matrices. Alors, y compris des gens qui font des recherches par ailleurs sophistiquées en stratégie, quand on leur demande d'enseigner, on fait le fameux stratégie 101, le cours d'introduction à la stratégie, et on se retrouve avec Porter, BCG, etc. La stratégie, en gros, comme on l'enseignait dans les années 70, qui est effectivement de la facilité, parce que c'est de la matrice, alors on remplit des cases, on parle de veau, de vache, de cochon, de chien, d'étoile, c'est merveilleux, c'est bien, il y a 4 cases, choisis ta case. C'est un peu simpliste.
J'adore cette formule dans votre texte, hein, page 76. Faire croire à nos étudiants qu'on peut réduire la pensée en 3 matrices et 2 diagrammes simplistes est rien moins que criminel. Cela revient à donner des AK-47 à des enfants de 4 ans.
Oui, parce qu'en fait, on vit dans un monde complexe. Je crois qu'on n'a pas besoin de passer plusieurs heures à expliquer qu'on vit dans un monde complexe. L'incertitude règne. Et si le message qu'on transmet, c'est que tout ça est ramenable à 4 cases dans un tableau, c'est très dangereux. C'est dangereux d'abord pour les étudiants eux-mêmes. C'est évidemment dangereux après pour les praticiens de la stratégie qui arrivent dans une grande organisation et qui disent, quelle que soit la situation, il faut que je trouve l'une des 4 cases dans laquelle je suis. Et puis, il n'y a plus qu'à dérouler la mise en œuvre, comme on dit, en séparant bien les deux. Donc non, je pense que c'est vraiment dangereux. Le message qui passe, c'est que l'incertitude, la complexité, au fond, oui, elles existent, mais tout est simplifiable en 4 cases. Et ça, c'est faux, bien sûr.
Bon, des enfants de 4 ans avec des vrais AK-47, effectivement, c'est dangereux.
C'est très dangereux.
C'est dangereux. Ça, c'est pour la pédagogie. Et donc, volet recherche, vous nous dites, de toute façon, les articles ne sont plus là pour être lus. C'est là pour servir la carrière des enseignants-chercheurs.
Donc, voilà, alors on force un peu le trait parce qu'il y a évidemment des choses intéressantes qui sont parfois publiées, mais on sait bien aujourd'hui, c'est même pas un secret, qu'aujourd'hui la plupart des articles sont écrits pour faire avancer sa carrière. On évalue les chercheurs par rapport au nombre d'étoiles, de points qu'ils ont fait. Je ne pense pas qu'un comité ait jamais lu le travail d'un collègue. On compte juste les étoiles dans lesquelles il ou elle a publié. Et donc, il y a ce que dans l'article, on appelle cette dimension sociologique, qui est que l'article est devenu juste un produit, alors que une espèce de fin en soi, hein, en quelque sorte, alors que normalement, la recherche, c'est travailler sur des questions de fond qui ensuite vont se traduire dans des articles et qui ensuite vont être lus par des théoriciens et des praticiens. Je crois qu'on est loin de ça depuis très longtemps.
Diagnostic d'une très grande franchise dans ce superbe texte. Après, vous nous dites, l'exit, c'est impossible. C'est-à-dire, arrêter la recherche, c'est quand même problématique. Il y a un vrai risque que la recherche soit sortie du paysage, que les chercheurs d'eux-mêmes se suicident, à continuer un peu cette fuite en avant dans la publication juste pour la carrière. Mais vous dites, l'exit, c'est impossible parce qu'il y a quand même des problèmes stratégiques.
Alors, voilà, la stratégie, elle se pratique de facto dans les organisations. Je crois que je ne connais pas une organisation qui n'a pas une pensée stratégique. Donc ça, c'est un fait. Alors, ce que fait en ce moment l'institution au sens large, alors je grossis le trait bien sûr, mais ce que fait l'institution au sens large, c'est qu'elle s'éloigne de cette pratique. Et donc, ça veut dire quoi ? D'abord, qu'elle ne se nourrit plus de cette pratique et des questions qui se posent. Et inversement, elle ne nourrit plus la pratique. Donc, la pensée stratégique telle qu'elle est faite dans les institutions, bien elle devient distante, abstraite, on s'échigne sur des pouillèmes de pourcents avec des modèles qui sont absolument merveilleux à observer, avec des pleins de lettres en grec, enfin c'est magnifique, c'est totalement inutile, mais c'est magnifique. Et puis de l'autre, on a ce que par défaut on appelle des praticiens, mais rien que ce terme traduit aussi un modèle mental, ils sont bien plus que des praticiens, sont des managers, des cadres, des dirigeants qui font de la stratégie, qui essayent de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés, qui réfléchissent à ces questions-là, et cela, le champ de la stratégie ne leur parle plus. Et devinez qui va gagner, il y a des gens qui sont des praticiens qui en ont besoin, et d'autres qui font des choses largement inutiles. L'avenir est sombre.
L'avenir est sombre. Alors d'ailleurs, vous faites référence à maintes reprises à un dossier spécial du Libellio, hein, de la revue Absolument. De Libellio, la stratégie a-t-elle un avenir? Ouais. Vous y allez fort, hein, et vous dites notamment, il y a un modèle qui est insupportable, quoi, hein, c'est le modèle où en fait la question est prédéterminée, la mise en œuvre apparaît presque ne plus compter, etc., etc.
Oui, alors on a parlé de la dimension sociologique, il y a aussi une dimension intellectuelle qui est qu'effectivement le modèle de la stratégie aujourd'hui, il est fondamentalement cartésien, c'est-à-dire que, alors déjà la stratégie se présente, je cite, comme la matière noble, ce qui est quand même pas rien d'oser dire des choses pareilles, et puis surtout ce modèle cartésien, c'est qu'on a d'un côté des penseurs qui pensent, puis après on a des exécutants qui exécutent. Alors, ça fait des années que des gens comme Mintzberg ont dit c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué que ça. Ça semble-t-il n'a pas eu d'effet, et on est toujours sur ce modèle cartésien qui est extrêmement stérile, effectivement, hein. Penser d'un côté, agir de l'autre, alors qu'on sait bien que la complexité du monde nécessite un mélange permanent de pensée, d'action. On agit pour pouvoir penser, on pense pour pouvoir agir. Enfin, cette séparation des deux, elle est obsolète depuis des années, mais elle persiste dans notre champ pour des raisons qui sont difficiles à expliquer.
Alors, passionnant, puisque vous nous dites, il y a des voies d'avenir quand même. C'est là qu'on peut rentrer en conversation. Alors, non pas sur ce modèle où la conversation serait préimposée, comme c'est trop souvent le cas dans les articles, et notamment quand on parle à des doctorants, on leur dit, voilà, comment il faut poser la question. Vous dites, à ce moment-là, il faut rentrer vraiment en conversation, mais là, il faut voicer. C'est-à-dire, il faut faire de la voix et de la voix un peu différemment. Voilà. Vous évoquez notamment le cas Apple, pour donner un exemple.
Oui, alors, Apple, c'est un cas qui est surutilisé, mais en l'occurrence, ici, on le cite parce que la situation à laquelle a été confrontée Apple en 96 est une véritable situation stratégique. Apple est au bout du rouleau sur son modèle, l'entreprise est au bord du dépôt de bilan, arrive Steve Jobs qui prend un certain nombre de décisions. Et ce que l'on dit dans l'article, c'est que les modèles stratégiques qu'on nous offre ne peuvent pas expliquer les décisions qu'il prend et ne peuvent pas expliquer la réussite qu'il a redressé Apple.
Et notamment les millions que va prêter Microsoft.
Voilà, exactement. Et donc, il a une action profondément stratégique, c'est-à-dire que à la De Gaulle, Napoléon ou même à la chinoise. C'est-à-dire qu'il apprécie la situation et se dit, voilà, quel est mon espace? Comment je peux jouer dans cet espace compte tenu de mes contraintes? Il comprend qu'il y a une dialectique entre lui et Microsoft et il se dit, là, je peux jouer. Et c'est une démarche qui est vraiment fascinante du point de vue de la stratégie. C'est un des grands redressements d'entreprise des années 90. Et je suis désolé de le dire, notre champ n'a rien à dire là-dessus. C'est consternant. Et ça, si ça ne nous interpelle pas en tant que chercheurs en stratégie, eh bien là, il y a vraiment de quoi être inquiet.
Pour faire simple, on rappellera qu'effectivement, il va chercher Microsoft parce qu'il sait que Microsoft ne peut pas se permettre d'être en monopole et donc doit le sauver.
Exactement. Il joue avec un coup d'avance, il comprend ça et donc il appelle Microsoft et Microsoft dit « Ok, on va investir ». Microsoft investit 150 millions de dollars dans Apple, ce qui évidemment est un signal au marché considérable pour dire Apple ne va pas mourir et dès lors, à partir de là, Steve Jobs peut reconstruire des alliances, etc. puisqu'il a inversé la croyance générale. C'est comme dans Lucky Luke, tout le monde préparait le cercueil d'Apple à cette époque-là. Et lui, il inverse complètement ça, encore une fois, par une compréhension de son espace stratégique et du jeu stratégique qu'il peut jouer sur une compréhension des dynamiques, des forces en présence, etc. Essayez de faire ça avec un modèle de porteur, vous irez nulle part. Donc là, il y a encore une fois une vraie question.
L'iMac vert fluo, puis l'iPod, puis l'iPhone, on connaît la suite.
Ils seront moqués par tous les grands stratèges d'ailleurs.
On connaît la suite. Il y a un passage génial où vous dites que, je crois que c'est Richard Rumelt hein, qui pose la question à Steve Jobs, quelle est votre stratégie? Ouais. Sa réponse, c'est attendre.
Voilà. Rumelt, qui est prof de stratégie, c'est un des grands auteurs du champ, il interviewe Steve Jobs, donc c'est après les premières semaines. Donc ça y est, la situation est à peu près stabilisée, et donc Rumelt pousse en disant, maintenant, ça y est, il faudrait avoir une stratégie maintenant, enfin une vraie. Un objectif, de l'innovation, disrupter, enfin toutes les choses qu'on attendrait d'un leader visionnaire. Et on remet, insiste, et Jobs dit, là, je ne sais pas, je vais attendre the next big thing, hein, la prochaine vague. Et Rummelt est évidemment très surpris parce que ça n'est pas une stratégie, enfin en tout cas pas au sens où nous, académiques, le définissons, mais c'est une stratégie superbe, c'est-à-dire là pour l'instant je ne peux pas jouer, donc je vais attendre. Et à un moment donné, je vais reconnaître quelque chose et là je pourrai jouer. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Et c'est là que vous nous dites, la principale voie de reconstruction, c'est de penser la stratégie comme manière de vivre. Je crois que vous dites d'ailleurs, quand on s'interroge sur sa raison d'être, c'est de commencer par soi,
Oui. Commencer
par vous. Ouais. Voilà, c'est une manière de vivre.
Oui, alors, sur cette raison d'être, c'est un grand sujet en ce moment, la raison d'être. Alors, on s'imagine des choses nobles, etc., surtout des choses qui sont distantes. Ici, l'idée, c'est de dire la raison d'être, c'est Spinoza, c'est le conatus, c'est soi-même, c'est persévérer dans son être. La raison d'être d'une organisation, ce n'est pas forcément quelque chose qui est distant. Et donc, ce qu'on dit, c'est avec l'expression de conversation, c'est on reprend ça en fait de Pierre Hadot, qui parle d'exercice spirituel. Alors, spirituel au sens de l'esprit. Et il dit, la philosophie a été présentée comme quelque chose de très abstrait, complètement inutilisable pour un petit nombre de gens qui sont complètement déconnectés de la réalité. Et tout le combat de Pirado, ça a été de dire, non, la philosophie, ça peut être très concret. Et donc, on sait bien qu'il y a eu des grands dirigeants qui ont été aussi philosophes, mais philosophes au sens de cette notion à la fois d'exercice, donc de quelque chose qu'on fait au long cours, de taper la balle, on dirait, de nos jours. Donc, exercice spirituel, et puis de conversation. C'est-à-dire que la stratégie, c'est branché sur la réalité. Et donc, c'est une conversation, effectivement, au sens de quelque chose au long cours qu'on fait avec les différentes parties prenantes. Je dirais même une conversation avec la situation. C'est être en lien avec la réalité, raisonner avec la réalité, plutôt que de bâtir un modèle cartésien et après d'essayer de plier la réalité à notre intention.
La stratégie ne mourra pas. C'est ça qu'on peut conclure. Les stratèges non plus.
Non.
Hein, on aura toujours besoin de stratèges. Absolument. Les stratégistes non plus, ceux qui aident les stratèges. Mais les chercheurs en stratégie qui continuent l'académique business as usual.
La question se pose. En tout cas, il faudra au moins qu'ils se réinventent, que nous nous réinventions.
La question se pose, que nous nous réinventions. Merci Philippe Silberzahn. Très, très beau texte. La recherche en stratégie et management, Exit Voice or Loyalty, c'est le numéro spécial. Coordonné par Alain-Charles Martinet et Pierre-Michel Menguer. Votre article face à l'effondrement du champ, la stratégie comme manière de vivre avec Philippe Rio.
Merci Jean-Philippe.
Merci à vous.